Je me suis rendu compte que majoritairement, c'était les femmes qui étaient conjoints suiveurs en expatriation et que ces femmes ne retrouvaient pas forcément un boulot dans le pays d'accueil où elles étaient. Et en fait, ces femmes prennent ce temps d'expatriation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je trouvais ça hyper chouette, hyper courageux parce que ça faisait écho à moi ce que j'aimais, à un courage, à une volonté d'apporter du positif. Et c'est comme ça qu'est né en fait un peu ce projet, un peu la fleur au fusil. Et je suis assez fière d'avoir tenu jusque-là parce que, encore une fois, dans l'entrepreneuriat, une des choses les plus dures, c'est de s'inscrire dans le temps et, si possible, avoir un impact important.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Adeline.
Salut Alec.
Comment vas-tu?
Ça va, merci. Merci de me recevoir. Je suis ravie.
Eh bien, écoute, avec grand plaisir. On en parlait tout à l'heure, justement, c'est de par une recommandation que j'ai découvert ton profil, ce que tu faisais, et The Musette également. J'avais vraiment envie de pouvoir t'inviter sur le podcast pour mettre en lumière ce que vous faites, qui va dans la ligne directrice aussi de beaucoup de nos actions qui ont pour objectif d'encourager l'entrepreneuriat au global, mais aussi l'entrepreneuriat au féminin. On invite de plus en plus de femmes et on essaie justement de diversifier nos invités. On voit aussi qu'on a une audience féminine qui est très fortement représentée et de plus en plus. C'est notamment grâce à des invités comme toi. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais rapidement te présenter comme je le fais à chaque fois et ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, Adeline, tu as lancé le premier réseau international de business et d'aide pour les femmes expatriées entrepreneurs. Tu es fondatrice de The Musette, une plateforme dédiée à soutenir et mettre en lumière les entrepreneurs francophones à l'étranger. Tu offres des ressources, des événements networking, des ateliers pour aider ces femmes à s'adapter dans leur nouvelle vie. Tu organises des événements physiques à l'échelle mondiale, des talk shows notamment, des workshops dans divers endroits comme Dubaï, Amsterdam, récemment Tokyo aussi, pour répondre spécifiquement aux besoins de ton réseau d'entrepreneurs expatriés. T'es passé pour ton parcours finalement de restauratrice de tableaux à Paris à entrepreneur à Dubaï, réinventant ta propre carrière pour s'adapter à la vie nomade suivant ton conjoint. Et tu es hôte du podcast The Musette, le podcast dédié aux conjoints suiveuses, comme tu le cites, ayant monté leur job nomade durant leur expatriation. Donc j'ai hâte de vivre cet épisode avec toi parce qu'il y a plein d'enjeux et c'est un enjeu concret du quotidien dont on parle peu, mais qui est capital. Et avant ça, je vais également, comme je le fais à chaque fois, mettre en lumière un ou une de nos auditeurs et auditrices. En l'occurrence ici, c'est Scylla qui nous dit « Merci Alec, au plaisir de percer prochainement dans le business pour venir storyteller et contribuer à l'ascension collective. Merci de la forte plus-value que tu apportes au travers de ce podcast, sans oublier les invités. » Bien, merci Scylla, merci à toutes et tous. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, un avis sur Apple Podcasts. Et pour la petite anecdote, au moment où on enregistre cet épisode, on va tout bientôt passer les 1000 avis 5 étoiles sur Spotify uniquement. Donc merci pour votre contribution, merci d'être aussi nombreux à nous écouter et on va pouvoir démarrer cet épisode. Commençons par le commencement, j'ai envie de revenir un petit peu sur tes débuts. Avant de créer The Musette, tu étais restauratrice de tableaux en France. Aujourd'hui, comme on l'a dit, tu es à la tête du premier réseau international de business et d'aide pour les femmes expatriées entrepreneurs. Quel a été ce moment clé qui t'a poussé à repenser entièrement ta carrière et ta vie professionnelle ?
Écoute, c'est en fait mon mari voyageait tout le temps avant qu'on soit parents. Il voyageait 5 jours par semaine et puis après avec enfant, c'était passé à 3 jours par semaine et c'était quand même très lourd. Et il se trouve qu'à un moment, il a eu l'opportunité de partir à Amsterdam. Il faisait déjà des allers-retours là-bas, mais il a eu cette opportunité, est-ce que nous, on le rejoigne ? Et je me suis dit, bah ouais, c'est bien, c'est le moment, parce que là où j'étais, dans mon atelier de restauration, même si j'avais un super bel espace, j'avais une clientèle top et tout, c'était compliqué. Il n'y avait pas forcément une ambiance bienveillante. Et je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de tenter autre chose, tenter l'aventure. Donc c'est à ce moment-là, et puis parce que j'ai ma meilleure amie qui m'avait dit « Ah mais moi, si je pouvais le faire, je le ferais, c'est ma famille avant tout. » Et quand elle disait « ma famille », c'était son mari et ses enfants. Et je me suis dit « Tiens, why not ?» Donc ça a été un déclic en fait.
Ok, très clair. Et justement, tu as ce déclic à ce moment-là, mais finalement, tout quitter du jour au lendemain, c'est un sacré défi en soi déjà, mais déménager dans un pays totalement inconnu par la suite, ça l'est encore plus. Quels sont les différents défis spécifiques que tu as rencontrés en changeant de vie? Comment est-ce que tu as réussi à t'adapter et les surmonter?
Alors, c'est vrai qu'au départ, donc, on est parti à Amsterdam, donc c'est clairement un changement de pays et de culture, mais je me rassurais en me disant « c'est pas si loin que la France ». Donc, au pire, je peux revenir, je suis pas à l'autre bout du monde. Là, il y avait des défis de culturels un peu, parce que forcément, ils ont leur façon de vivre qui est complètement différente de la nôtre, sur certains aspects. Un enjeu au niveau de la langue, parce que, bah, voilà, ils parlent néerlandais, et le néerlandais, c'est hyper difficile à apprendre, c'est pas une langue que moi, je trouve très jolie. Après, ils sont bilingues en anglais, sans accent, donc c'est hyper facile de les comprendre. Mais quand tu viens de France, où on a appris l'anglais en France, et donc on l'a mal appris, en tout cas ma génération, voilà, il faut refaire une mise à niveau, parce que sinon tu te retrouves un peu isolé, ne serait-ce qu'avec les commerçants, quand tu vas faire tes courses. Donc il y a ce challenge-là. Et puis après, bah, évidemment, le plus gros défi, c'est tu connais personne. Donc, faut se faire du réseau. Et ça commence par un réseau perso, au départ. En tout cas pour moi, parce que moi, j'avais gardé la restauration de tableau les deux premières années d'expatriation. Et tu te dis, ok, je connais personne. Bon, je connais personne, je ne maîtrise pas la langue, je ne maîtrise pas bien l'anglais. Va falloir se bouger, quoi. Va falloir sortir de sa zone de confort et tout recréer. Donc, c'est un peu ça, les gros défis quand tu pars pour une première expatriation, je trouve.
Et justement, face à ces différents enjeux et différents challenges, est-ce que tu as mis en place des actions concrètes qui t'ont permis de les relever plus facilement? Et est-ce que ces forces de cette expérience, face à laquelle peut-être tu n'avais pas les réponses, que tu t'es dit, ça va donner du sens à créer The Musette et accompagner des femmes qui peut-être font face aux mêmes enjeux auxquels j'ai fait face?
Oui, totalement. En fait, comme je connaissais personne, je me suis dit, il va falloir que je trouve quand même des personnes à qui parler, parce que voilà, mon mari travaillait. Et alors moi, j'ai eu la chance d'avoir le canal de l'école de mes enfants, qui fait que ça a été un point d'entrée pour rencontrer du monde. Je sais que tout le monde n'est pas parent, et quand on n'a pas cet accès, c'est plus compliqué. Peut-être qu'on en reviendra plus tard là-dessus, mais voilà, on n'atterrit pas tous dans des capitales. Donc, et si on n'a pas d'enfants, c'est encore plus difficile. Mais bon, voilà, moi, c'est des points d'entrée. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer les personnes qui sont devenues mes amies. Moi, ils étaient dans un système français au départ. Donc, voilà, il n'y avait pas ce problème de la langue. Ça a facilité les choses. Et en fait, c'est au niveau professionnel, alors comme je te disais, c'était plus compliqué parce que voilà, moi je faisais des allers-retours tous les 15 jours pour mon atelier. J'avais des clients, j'avais des élèves. Et puis c'était hors de question que je lâche ce que j'avais créé. J'avais mis du temps à le mettre en place. C'est très organique. Le métier de la restauration de tableau, c'est un métier un peu de luxe parce que tout le monde ne se fait pas restaurer un tableau tous les 4 matins. Donc il faut, enfin voilà, c'est un travail de longue haleine et je voulais pas lâcher ça, surtout si j'aimais pas le pays, si je me sentais pas bien, j'allais pas revenir au bout d'un an en me disant en fait j'ai tout lâché, il faut que je recommence tout. Donc il y avait le côté un peu professionnel et comme je le disais, il y avait une mauvaise ambiance, enfin une ambiance qui un peu se délitait au fur et à mesure des années. Et donc je me suis dit, il va falloir que je trouve un projet que je puisse amener, en tout cas bouger, si je suis amenée à revoyager, à refaire de nouvelles expatriations. Et en fait, c'est en discutant avec une jeune maman, je lui demandais ce qu'elle avait fait, ce qu'elle faisait, parce que bon, c'est un peu la première question quand tu rencontres les gens, hein, qu'est-ce que tu fais? Et elle me disait, à part m'occuper de mon fils, faire le sport et le ménage, pas grand-chose. Je la trouvais pas du tout épanouie. Je me suis dit, mais c'est horrible. En plus, elle était peut-être même plus jeune que moi. Je me suis dit, mais non, enfin, on ne peut pas subir l'expatriation comme ça. Alors moi, j'ai toujours été entrepreneur. Enfin, tu vois, j'ai toujours été un peu envie de faire quelque chose. Et je me suis dit, non, mais il n'y a pas moyen. On peut faire quelque chose en expatriation. Et en fait, c'est comme ça, au fur et à mesure de son anecdote à elle, des rencontres que j'ai faites, je me suis rendu compte que voilà, majoritairement, c'était les femmes qui étaient conjoints suiveurs en expatriation. Alors, il y a des hommes, hein, clairement, mais ça reste majoritairement des femmes. À l'heure actuelle, on est à 80% encore. Et que ces femmes, retrouvaient pas forcément un boulot dans le pays d'accueil où elles étaient. Les boîtes qui avaient envoyé leur mari, leur boîte n'avait pas suivi les boîtes des conjoints. Donc, c'était pas forcément évident. Elles retrouvaient pas forcément aussi un travail dans le corporate parce que, par exemple, aux Pays-Bas, y a une préférence nationale. On fait d'abord les priorités aux néerlandais. Et puis aussi, il y a certains postes où il faut parler néerlandais. Donc, voilà, tout de suite, ça met quelques barrières. Et en fait, ces femmes, certaines, pas toutes, hein, mais certaines prennent ce temps d'expatriation pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je trouvais ça hyper chouette, hyper courageux, parce que ça faisait écho à moi ce que j'aimais. À un courage, à une volonté de faire quelque chose, de faire bouger les lignes dans n'importe quel domaine, d'apporter du positif. Et c'est comme ça qu'est né en fait un peu ce projet, un peu la fleur au fusil, j'avoue.
Ok, et par une prise de conscience des enjeux et des problématiques liées à ça, tu te dis je vais démarrer ce projet. C'était il y a combien de temps quelle était l'ambition initiale? Parce qu'aujourd'hui, ça a pris quand même une belle ampleur, et félicitations pour ça. Est-ce que dès le départ, la vision était celle qu'elle est aujourd'hui? Avec quelles ressources tu as démarré ça? Et comment ça a démarré?
Alors, j'ai commencé, donc on s'est expatrié en 2015, j'ai réfléchi le projet vers 2016, et c'est sorti officiellement en 2018. Mais au départ, c'était pas du tout ce que c'est maintenant. Comme je te dis, je suis partie un peu la fleur au fusil en disant « Bon, je vais répondre à cette jeune fille qui ne sait pas vraiment quoi faire de son expatriation. » Et donc, je vais voir les femmes autour et celles qui ont entrepris. Je vais un peu les interroger, voir comment elles ont fait, pourquoi. Alors au départ, j'ai commencé avec des copines. Et puis rapidement, j'ai voulu aller plus loin parce que je ne voulais pas qu'on me dise « Ah, c'est facile, c'est du copinage et tout. » Et puis surtout que ça m'intéressait de savoir comment on entreprend, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, etc. J'ai rapidement, grâce aux réseaux sociaux, trouvé des femmes qui entreprenaient à droite à gauche. Et puis après, il y a eu du bouche à oreille. Mais au niveau des ressources, j'ai tout fait par moi-même. J'ai créé le site. J'allais rencontrer les femmes. Il y avait très peu d'investissement financier parce que j'avais pas pensé le projet à comment il est maintenant. C'était vraiment on va voir ce que ça donne parce que est-ce que écouter ou en tout cas déjà au départ c'était lire des articles. Je faisais des articles, lire les articles de femmes qui s'expatrient. Donc à l'étranger et qui entreprennent quelque chose, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un? Et au final, oui. Et pas mal se sont retrouvés ou ça se sont dit « Ah, si j'avais vu ça avant, ça m'aurait inspiré. » Donc en fait, le point de départ, c'était de répondre à cette jeune fille en disant « regarde, elle est à New York, elle est à Singapour, et regarde, elles font quelque chose. Elles n'ont pas forcément des budgets de dingue. » Voire pas, et c'est hyper inspirant, et elles font quelque chose, donc on peut faire autre chose que le sport, le ménage, et s'occuper de son enfant.
Ouais, c'est vrai que ce que tu évoques, faire autre chose que le sport, le ménage, et s'occuper de son enfant, c'est un peu une sorte de cliché et une problématique, mais j'imagine aussi un poids finalement, parce que y a un enjeu aussi social, finalement, et la perception des gens que certains peuvent avoir alors que toi, tu t'expatries parce qu'il y a des enjeux de carrière ou autre et ça s'intègre dans une dimension de soutien, dans un ménage commun et une vision commune d'évoluer ensemble, telle que tu l'évoquais avec ces femmes qui suivent leur mari dans l'expatriation finalement de par leur carrière. Donc, ça peut paraître un petit peu limite... ingrat ou imposé de se coller une étiquette de ce fameux terme femme de. Comment est-ce que ça affecte les perceptions et quel impact cela sur les femmes qui, comme toi notamment, cherchent à redéfinir leur rôle à l'étranger, puis quand même être dans l'action plutôt qu'autre chose.
Ouais, en fait, alors il y a une chose que je veux dire avant, c'est que tu vois, il y a des femmes qui suivent. Enfin, généralement, c'est toujours un projet commun. La boîte propose aux talents, donc souvent masculins, de partir en expatriation, et les expatriations, elles se font majoritairement du temps en couple, en famille, et c'est un projet qui est OK pour tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, c'est la femme qui se met en retrait, qui souvent s'est ressentie comme un sacrifice professionnel. Et c'est vrai que la femme devient femme d'eux. Alors déjà, et quand on bascule dans ce statut, il y a tous les clichés qui viennent avec. Et c'est assez difficile. Alors certaines le vivent très bien et ça passe au-dessus. D'autres non. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, quelque part, on ne prend pas forcément au sérieux, surtout quand on entreprend. Tu vois, c'est ouais, bon, bah, elle fait un petit hobby, quoi. C'est OK, elle passe son temps. Non, elles ont vraiment des projets à impact. Et puis il suffit que tu ailles dans des pays où c'est très cliché. Bah, alors, donc voilà, moi je suis à Dubaï maintenant. Bah, je te raconte pas, on est au top du cliché, quoi. On peut passer son temps à faire du yoga, du shopping, la plage, etc. T'as d'autres pays. Quand les femmes elles sont en Chine par exemple, ah mais comment tu peux vivre là-bas, tu comprends, c'est une dictature, etc. Ou alors il y a des réflexions, ça va, t'es tout le temps en vacances, de quoi tu te plains? Donc c'est compliqué. À un moment, au début, tu t'essayes de, je dirais pas de justifier, mais de dire bah non, mais en fait c'est une expatriation voulue, et viens voir en fait, viens voir comment ça se passe, au lieu de juste écouter ce que disent les gens qui n'ont pas vécu à l'étranger, et viens voir comment on vit, viens voir ce qu'est vraiment le pays, il y a toute une éducation à faire. Et il y a tout un travail de reconnaissance de ce statut de femme d'eux, que j'aime pas vraiment, que je mets à chaque fois entre guillemets.
Ouais.
Parce que voilà, elles sont pas, c'est pas des faire-valoir de leur mari. Enfin, elles sont soutien, hein. Clairement, elles sont pour que le mari réussisse sa carrière, mais ça passe, si il réussit sa carrière, c'est parce que ça passe aussi par elle, quoi. Et donc ça, faut vraiment le prendre en compte.
Ouais, c'est un travail collaboratif.
Ouais, ah ouais, oui, parce que encore une fois, c'est le mec, il part pas tout seul, quoi. Il part en couple ou en famille. Donc s'il faut que lui, son expatriation se passe bien, c'est-à-dire que la boîte qu'il a employée veut qu'il fasse son job correctement et que le projet pour lequel il a été envoyé fonctionne et que ça rapporte de l'argent, il faut qu'à côté la femme ou la famille soit bien, parce que si ça va pas, si elle dépérit parce qu'en fait elle se fait chier, parce qu'elle a pas trouvé sa voie, parce que elle sait pas comment entreprendre, quand lui il rentre le soir, c'est pas évident, quoi. Donc à un moment il y a un déséquilibre qui se fait, et quand les expatriations ratent, c'est à cause de ça, à cause de ce déséquilibre, à cause de cette non-reconnaissance, à cause du fait que voilà, elle n'a pas pu s'épanouir professionnellement parlant aussi.
Complètement, complètement. T'évoquais le sujet de Dubaï notamment. Avant, c'était Amsterdam, donc on est plus sur des cultures, on va dire, occidentales. Mmh. Dubaï, c'est un autre type de culture, effectivement. Tu dis aussi, venez voir comment ça se passe. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu l'as vécu, comment tu le vis et comment ça se passe, toi qui au quotidien côtoie des femmes d'expatriés ici et ailleurs. Ça peut être intéressant parce que on a beaucoup d'hommes mais aussi de femmes qui nous écoutent, et dans tous les cas la plupart des hommes qui nous écoutent ont pour certains des femmes également, et font face peut-être à des enjeux ou des problématiques de ce type. Et je sais que de plus en plus de gens veulent s'expatrier, pas forcément pour venir à Dubaï uniquement, mais souvent veulent s'expatrier ailleurs qu'en France. Et c'est vraiment des questions qu'on se pose à chaque fois. Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Ouais, c'est vrai que je dis qu'il faut aller venir voir parce que, mais même moi, mais la première, donc je jette pas la pierre, tu vois, mais quand on m'a dit Amsterdam, bon, bah t'as des a priori sur Amsterdam, ok, hein, il fait moche. La langue est pas belle, y a pas la culture de la nourriture, c'est pas ça. Et ce qui est vrai dans un certain sens, Amsterdam, c'est pas non plus le pays de la gastronomie, enfin en tout cas les Pays-Bas. Voilà, c'est vrai qu'il y a, un climat qui, voilà, t'as quand même du gris une grande partie de l'année. Voilà, à Dubaï, mais pareil, je m'étais dit, ah, non, mais j'irai jamais là-bas, c'est fake, c'est bling bling et tout. Mais en fait, moi, j'ai adoré Amsterdam. Mais vraiment, on a adoré, on est resté 6 ans, on s'est fait des super potes, on a vécu vraiment une expérience géniale. Et à Dubaï, mais pareil, en fait, tu vois, ça fait 3 ans, mais on a rencontré des gens hyper bienveillants, hyper ouverts, et qui ont ce même ressenti, c'est-à-dire des copains ou de la famille qui est restée en France, et, ou alors qui sont expats, mais voilà, par exemple, moi j'ai des amis à Amsterdam qui disaient « Ah ouais, mais Dubaï... » Voilà, c'est un pays de dictature, mais enfin, faut remettre les choses dans son contexte, faut apprendre de l'histoire. Dubaï, c'est un pays qui a 52 ans, ils ont que 52 ans, c'est très très jeune, et en 52 ans, ils ont fait des choses mais monstrueuses. Moi, je vois enfin, je trouve que par rapport à la France, on est hyper en retard sur certains points. Et donc, c'est pour ça que je leur dis, mais venez voir. Des fois, sur les réseaux sociaux, je vois à Dubaï, c'est bling bling, c'est fake, il n'y a pas d'âme et tout. Non, c'est pas vrai. Oui, il n'y a pas une âme de, comme un pays en France qui a vécu le siècle des Lumières, etc., évidemment. Mais voilà, les UAE, ce n'est pas que Dubaï. Dubaï, c'est, ils ont fait le choix et le cher. Ici, il a une vision de son pays. Il voit très long terme et ça fonctionne. Et moi, c'est ce que j'aime là, ici, c'est de se dire, mais le gars... Il voit loin, il veut emmener son pays, il veut que les gens soient heureux, il veut que les gens soient positifs, il veut que les gens soient motivés et il veut faire venir du monde. Il veut s'ouvrir au... Enfin voilà, on est quand même 90% d'expatriés sur Dubaï, c'est énorme. Et dans ce pays, on est quand même 90% de population à s'entendre les uns avec les autres. Donc, quelque part, c'est que ça marche. Oui, il y a des règles. Oui, il y a une. Enfin voilà, tu joues pas avec les règles ici. Oui, tu sais que si ça tombe, et pas, ça peut tomber fort et ça peut faire mal et tu peux rentrer dans ton pays vite fait. Mais en fait, c'est ce qui fait aussi que les gens ont envie de venir, je pense, parce que enfin, on voit ce qui se passe en France maintenant. Il y a une insécurité qui. Alors moi, ça fait longtemps que je suis partie maintenant, mais qui semble palpable. Moi, j'ai ma famille qui est encore là-bas. Enfin voilà, c'est pas. C'est moins serein qu'avant, je dirais. Donc c'est, bon, je trouve ça hyper dommage. Hein, je trouve ça hyper dommage pour la France. Mais voilà, je dis aux gens, venez voir ce qui se passe et faites pas des a priori. Et il y a une âme autre à Dubaï. C'est, il y a beaucoup d'énergie. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de l'entrepreneuriat. Ça bouge beaucoup. Hommes-femmes. On a la chance aussi quelque part, alors oui il y a beaucoup de marques de luxe mais c'est pas mauvais aussi les marques de luxe, c'est comment dire, ça nous permet quand on commence à réseauter, parce que ça c'est tout à l'heure tu me demandais quelles actions j'ai menées, c'est aussi le réseautage, le fait de réseauter, et bah on peut discuter avec des personnes qui sont C-level, hyper haut placées dans leur entreprise, mais c'est tellement enrichissant, mais on est tiré vers le haut en fait, et enfin voilà, moi je trouve que ça c'est une grande richesse, c'est une grande ouverture d'esprit, et l'expatriation en soi, hein, est une ouverture d'esprit
complètement,
et pour le couple et puis pour les enfants, alors, et encore plus quoi.
Ouais, et Justement, tu parles de clichés. Il y a une tendance globale de la société à catégoriser les gens, à les mettre dans des sortes de cases, et ça peut souvent limiter leur potentiel. Qu'est-ce que tu mets en place concrètement ou comment vois-tu l'avenir pour encourager une vision plus ouverte et inclusive de l'identité de chacun et permettre finalement à chacun d'exprimer leur potentiel sans pour autant avoir le sentiment d'être jugé ou devoir répondre à certains codes?
Bah, je dirais que moi, j'essaie de le faire en justement récoltant ces témoignages de femmes. Parce que voilà, moi, c'est devenu ma cible. Hein. Je disais, y a, bien sûr qu'il y a des hommes qui suivent, etc. Mais comme ça reste de façon majoritaire des femmes, c'est elles que j'ai choisi de mettre en avant. Et en fait, voilà, et de montrer via mes podcasts, via les events que j'arrive à créer. Grâce aussi à des ambassadrices, dire mais voilà, regardez, elles ont. C'est des femmes qui ont des talents, qui ont des carrières quand elles étaient en France, qui les ont mis entre parenthèses, qui créent autre chose. Mais c'est tellement dur, l'entrepreneuriat. Donc, c'est comme ça que j'essaie de dire, mais voyez, c'est. Passer au-dessus du stade de femme 2 qui, voilà. Son temps voilà à la piscine, non, c'est pas vrai, c'est justement allons au-dessus de ça. Et donc, c'est voilà, j'essaye par tous ces podcasts, ces témoignages, ces mises en relation, et j'essaie de gagner en visibilité en fait au fur et à mesure. Ça va faire donc 4 ans que je suis dessus, parce qu'au départ, je dirais que c'était un peu en dilettante, tu vois, quand je savais pas trop si ça allait prendre, ce que ça allait donner, j'avais pas forcément une vision. D'entreprise du projet. C'est voilà, ça s'est construit au fur et à mesure, et la visibilité, je la gagne, et la crédibilité aussi, puisque je suis de plus en plus sollicitée, je suis de plus en plus vue, et donc tant mieux, parce que enfin moi le projet il existe parce qu'il y a ces autres femmes aussi, parce que moi toute seule ça y a pas forcément d'intérêt, mais voilà, de leur dire bah voilà, on est un réseau. Et c'est pas voilà, c'est parce qu'on est à Dubaï qu'on est des influenceuses, quoi. Et encore, je mets le curseur entre influenceuse et influenceuse. Il y a des influenceuses que moi qui ne me parlent pas du tout, j'ai du mal. Il y a les influenceuses qui vont dans le bon sens, qui sont dans le côté entreprendre aussi, et ça me parle plus. Donc, je mets pas tous les gens dans le même panier, mais voilà. Donc, c'est moi mes actions, voilà, que j'essaye de gagner en visibilité et grâce au networking que je fais, quoi.
Ok.
Et de promouvoir mon projet.
Très clair. On parle depuis tout à l'heure des Musettes, qui est du coup toute la plateforme et l'écosystème que tu as créé. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la mission, la vision et le concret de ce projet aujourd'hui au quotidien en 2024? Ça fait maintenant du coup 6 ans que ça a vu le jour, les choses ont beaucoup évolué de façon à ce que celles et ceux qui peut-être s'intéressent réellement à la chose. D'ailleurs, on mettra le lien dans la description de cet épisode, comme on le fait à chaque fois, notamment ton LinkedIn, et bien puissent en savoir plus.
Oui, alors en effet, The Musette, ça a beaucoup évolué. Donc, en effet, au départ, c'était une plateforme où je récoltais des articles, voilà, enfin des interviews de ces femmes. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est beaucoup développé. Et donc maintenant, c'est un réseau donc international, comme tu disais, qui tourne autour de 3 piliers. Donc un pilier inspirationnel où je continue d'interroger ces femmes parce que je trouve ça très enrichissant de savoir, eh bah, entreprendre aux États-Unis, eh bah, il faut faire telle démarche, il y a une telle mentalité, il y a une culture de l'entrepreneuriat qui est différente que si tu vas entreprendre, je sais pas moi, au Vietnam ou à Singapour ou en Australie. Je trouve ça très inspirant de voir comment comment dire, les locaux voient les Françaises qui entreprennent. Donc ça, je trouve ça très très chouette. Et puis, bon, encore une fois, parce qu'entreprendre, c'est difficile, donc c'est bien de s'inspirer les unes des autres. Après, il y a un pilier networking, donc comme tu disais, où en fait, j'organise des events en présentiel. C'est ou autour d'apéros dînatoires, où j'invite des speakers de qualité à parler de leur parcours. Et puis, on a souvent à côté un speaker un peu expertise. Tu vois, où je donne on a un sujet qui est abordé. Par exemple, on a fait les levées de fonds et les fonds d'investissement. Parce que pour les femmes, c'est plus compliqué à atteindre. Alors, quand tu es en expatriation, voilà, ça rajoute encore de la difficulté. Voilà, et ben, on avait une speaker qui, voilà, ici à Dubaï, a monté son fonds d'investissement. Et donc, c'était chouette d'avoir son parcours. C'était très inspirant. Et après, ben, voilà, on fait du networking pour que ces femmes, eh ben, puissent échanger. C'est leur moment à elles. Parce que quand tu entreprends, que ce soit en France ou ailleurs, tu es souvent seule. Donc, c'est bien d'avoir ce moment de regroupement. Ou alors, c'est avec autour de dîners, où là, ce sont toutes ces femmes qui sont, elles, ce sont les speakers, ce sont les guests. Et en fait, voilà, le but, c'est encore une fois, de partager, de rencontrer, d'apprendre les unes des autres. Et aussi, de faire un business matchmaking, se dire, ah bah tiens, pourquoi pas, on pourrait pas collaborer ensemble. Donc voilà, donc j'essaie de les faire en présentiel au maximum. Je l'ai fait donc à Dubaï plusieurs fois, grâce à des ambassadrices qui croient à mon projet, qui sont, je dirais entre guillemets, fans, hein, mais pas, enfin, sans jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais qui aiment ce que je fais. En fait, elles prennent de leur temps et elles me permettent d'organiser ça à distance. Donc, ce qui fait que j'ai pu en faire à New York, j'ai pu en faire à Madrid, j'ai pu en faire à Singapour, en effet à Tokyo là, la semaine dernière. Le but, c'est de, voilà, c'est pas de faire un one shot et de dire ouais, on a fait un event ici. Le but, c'est d'essayer de revenir plusieurs fois. Ce genre d'event, c'est pas pour dire à toutes les organisations qu'il y a localement de leur prendre la place. Non, c'est pas ça. C'est de dire que c'est en complément. Dire voilà, bon, vous avez des choses qui se passent en local, c'est très bien, mais regardez, il y a The Musette, c'est international. Donc, si à un moment il y a une fille qui a envie de se connecter, je sais pas moi, qui est à Singapour et qui a envie de se connecter avec une personne qui est à New York, mais voilà, passez par le réseau parce qu'on est partout. Et je trouve ça tellement puissant de pouvoir collaborer entre femmes et à travers le monde que ça peut être que enrichissant. Donc, ça, c'est le pilier networking. Et puis après, il y a le pilier business où, voilà, moi, je mets en relation des experts avec ces expatpreneurs, comme je les appelle, parce que c'est difficile d'entreprendre et qu'à un moment, on a besoin d'avoir un œil extérieur. On a besoin d'avoir une personne compétente dans un domaine qui prenne du recul pour nous et qui nous dise, bah, voilà, il faudrait que tu ailles dans cette direction-là, il faudrait que tu fasses ça, ça, ça. Et moi, ces experts, elles ont connu ou sont expatriées. Et je tiens à ce qu'elles aient vécu cette expérience de l'expatriation parce que c'est un autre mindset qu'on a et qu'on n'a pas si on n'a pas vécu ça. Donc, c'est important pour moi. Et surtout, dans ces accompagnements business, c'est surtout très personnalisé parce qu'elles montent des projets dans plein de domaines différents. Que ce soit des OGN, pardon, des ONG, que ce soit dans le prêt-à-porter, dans la joaillerie, dans le wellness, dans le coaching, etc., etc. Leurs problématiques sont différentes les unes des autres. Donc, elles ont besoin d'avoir des réponses concrètes à leurs questions et pas à celles de la voisine. Donc, je demande à chaque fois aux experts, surtout, tu prends ton temps de voir avec elle quelle est vraiment sa problématique à elle et pas à la voisine. Donc voilà, donc c'est des accompagnements en one-to-one, ou alors elles peuvent avoir accès à des packs d'accompagnement qui sont flexibles, sur mesure toujours, et adaptés à leur temps, parce que souvent elles sont aussi mamans et qu'elles ne peuvent pas faire 3 semaines de formation non-stop. Et donc là, voilà, moi je suis le premier filtre, je suis la première interlocutrice. Et j'essaie de les guider en disant, voilà, ton projet, j'ai compris, c'est ça. Et ben, il va falloir en premier que tu vois tel expert, tel expert, tel expert. Et donc, au fur et à mesure, on crée cet accompagnement personnalisé.
Et justement, dans le cadre d'un accompagnement plus business, une dimension plus business de l'expertise que tu as développée autour de l'expatriation, pour une personne expatriée prête à entreprendre, qui a un projet, comment est-ce que recommandes-tu d'aborder l'introspection nécessaire pour aligner ses objectifs professionnels avec ses nouveaux enjeux et son nouveau cadre de vie à l'étranger?
Bah, c'est-à-dire, c'est vrai que si elle a une idée en tête et qu'elle est vraiment au tout début, elle est en idéation de projet, la première chose que je dis, c'est quand même d'aller voir quelqu'un, coach en transition professionnelle, on va dire, ou qui travaille tout ce qui est émotionnel pour être sûr d'être bien aligné. Parce que voilà, créer quelque chose après, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie. Donc, il faut être sûr de son idée. Donc, c'est la première chose que je fais. Et après, si voilà, elle a déjà son idée et qu'elle sait vraiment, enfin, elle sait ce qu'elle veut faire, dans quel domaine, dans ces cas-là, bah voilà, moi, je l'oriente en disant, bah, écoute, il faut voir la personne qui va déjà, par exemple, faire les visas, tout ce qui est implantation de société, parce que bah, créer une entreprise à Dubaï, ce n'est pas la même chose que créer une entreprise aux États-Unis. Les visas, les licences, etc., ce n'est pas la même chose. Et puis après, bah, c'est voilà, par exemple, voir quelqu'un en gestion de projet, dans quel ordre tu vas faire toutes tes étapes. Et puis après, ça va être, eh bah, pourquoi pas, la stratégie de marque, le branding. Il va falloir définir tout ça. Et puis voilà, ça se construit au fur et à mesure, tu vois. Et puis si elle est plus avancée dans son projet, et bah, c'est voilà, les réseaux sociaux, par exemple, ou la stratégie digitale, hein, etc., etc. Tu as évidemment tout ce qui est l'aspect juridique à mettre en place. Donc voilà, moi, j'ai des experts qui sont partout. J'essaie de les développer au maximum dans le monde entier, ne serait-ce que pour une question de fuseau horaire. Parce que moi, si j'ai une entrepreneur qui est à New York et que j'ai mon expert qui est à Dubaï, à un moment, ça ne marche pas. Il y a 6-8 heures de décalage horaire, ce n'est pas possible. C'est trop contraignant. Donc voilà, donc moi, voilà, je développe et mon réseau d'entrepreneurs et mon réseau d'experts à travers le monde.
Très clair. Justement... Quand tu parlais de mise en relation, de choses comme ça, d'experts, typiquement, c'est quoi les enjeux et les problématiques majeures et récurrentes auxquelles font face des femmes expatriées et qui veulent développer une activité professionnelle ou juste développer un projet ou autre, mais de manière concrète ?
Eh ben, déjà, il y a un premier challenge, c'est tout ce qui est comment dire, réseau professionnel, puisque justement, elles ont suivi. Et donc, elles partent de zéro, souvent. Donc, bah, c'est en passant grâce à ma plateforme et en ayant, voilà, tous mes contacts, ça leur facilite, en fait. Ça leur évite de dire, attends, où est-ce que je vais aller pour chercher telle personne qui puisse m'aider, voilà. Donc, il y a le réseau professionnel à avoir. Un autre défi aussi, c'est aussi l'aspect financier. Parce que souvent un autre cliché qu'on a, c'est que quand on est expat, c'est bon, bah voilà, on est très très riche. Alors les PAC qui existaient dans les années 80, ça n'existe plus vraiment, un peu, mais pas, enfin voilà. Et souvent les contrats des maris sont locaux, donc ce qui veut dire que bah voilà, l'assurance c'est toi qui payes, l'école c'est toi qui payes, l'appartement c'est toi qui loues, enfin voilà, donc. Si par-dessus, il y a l'aspect financier à rajouter pour la femme, parce que développer un projet, à un moment, oui, on commence gratuit, comme j'ai fait, mais à un moment, quand on veut grandir, il faut investir. Donc, il y a cet aspect financier qui est à prendre en compte, quoi. Donc, d'où l'importance aussi de faire un business plan. Et voilà, donc moi, j'ai des experts qui sont là aussi pour ça, pour les aider. Mmh. Donc, je dirais que... Ouais, les gros défis quand tu veux entreprendre à l'étranger, c'est trouver le bon réseau professionnel et donc qui fait que tu vas bien être entouré et donc bien le définir, quoi.
Ok, très clair. Souvent, les enjeux et les problématiques également auxquelles font face les porteuses de projets qui, peut-être de par cette expatriation, se lancent finalement dans l'entrepreneuriat pour la première fois. C'est quoi ? Est-ce que c'est très divers ou est-ce que c'est souvent les mêmes ? Tu parlais par exemple de l'importance du business model, du business plan. Est-ce que souvent c'est quelque chose de méconnu ou de bâclé ou de fait de manière erronée et que du coup vous êtes obligé de revoir ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui est vraiment un biais récurrent qui empêcherait la personne en question d'atteindre le succès ? Le sens de ma question, c'est finalement la personne qui se sent concernée et qui écoute ça. Quels sont les points de vigilance auxquels elle doit être attentive ou il doit être attentif pour pouvoir justement ne pas reproduire les erreurs qui sont les plus courantes ?
Bonne question. Je pense que je pense que c'est un conseil que j'avais eu d'une femme que j'avais interrogée. C'est faut vraiment kiffer ce qu'on va faire, kiffer son projet. Parce que En fait, elles, comme je disais, elles ont des talents au départ, je ne sais pas, moi, elles ont été CFO dans une boîte, elles ont été, je ne sais pas, dans la commune marketing, dans une autre boîte importante, etc. Mais en fait, on ne peut pas savoir tout faire. Donc, il faut savoir, faut être sûr de son projet, vraiment le kiffer, pour parler un peu vulgairement. Mais après, on ne peut pas savoir tout faire. Donc, comment t'expliquer? Ouais, les écueils, c'est de se dire, bon, ok, je vais avoir des faiblesses. Je vais pas pouvoir tout maîtriser. Surtout dans un pays où je ne connais pas forcément du monde, où je dois tout recréer et où il y a peut-être une barrière de la langue. Parce que tu ne trouves pas forcément comment dire, un interlocuteur qui pourra t'aider et qui parle ta langue. Donc voilà, je dirais que c'est ça les écueils, c'est de bien être sûr dans quoi on veut se lancer et de voilà et de faire attention et enfin et de se rend, et, ouais de bien prendre conscience que on peut pas tout maîtriser parce que être entrepreneur c'est être généraliste. Ça c'est une autre entrepreneur qui me l'avait dit et c'est vrai. On doit savoir tout faire.
Ouais.
Et c'est hyper lourd, hein. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, et c'est OK, hein, c'est pas de souci. Mais quand on veut être entrepreneur, voilà, faut le savoir. Et en plus, à l'étranger, je veux dire, enfin voilà, tu as cette dimension de... t'as pas tes repères familiaux, amicaux, même si tu vas les créer, mais bon, voilà, ça vient au fur et à mesure, hein, bien sûr. Et c'est ce qui est chouette. Et après, il y a une solidarité qui se fait. Et après, on te donne des contacts et tout. Mais voilà, il faut aussi que tu t'adaptes à la culture. Il faut aussi que tu t'adaptes. Le rapport au temps n'est pas le même partout. Nous, en France, genre, on dit, ah bah, je te donne, je sais pas moi, ma deadline, c'est dans 3 jours. Ok, tu sais que dans 3 jours, c'est fait. Mais par exemple, en Indonésie, c'est pas comme ça. En Inde, c'est pas comme ça. Ils n'ont pas ce rapport au temps qui est le même. Moi, j'ai interrogé une entrepreneur là, récemment. Qui travaille avec des ateliers indiens, ah bah le gars pendant 6 mois, il n'a pas répondu, quoi. Et là, ton rapport au temps qui a un impact sur ton business n'est pas du tout le même. Donc tu dois t'adapter. C'est ça aussi, s'adapter à la culture. Et s'adapter, voilà, comme je dis souvent, moi, quand c'est toutes mes expatpreneurs, elles arrivent dans leur pays d'accueil, elles ne sont pas en mode. Tu vois, c'est moi qui arrive, c'est moi la reine et tout. Non, non, elles sont là, je vais m'adapter, je vais essayer de travailler de façon locale, avec des produits locaux. Et donc, ça prend du temps, quoi, tout ça, c'est organique. Et voilà, il y a des choses que tu peux pas maîtriser. Et ce rapport au temps, c'est aussi un gros challenge, quoi.
Ce que tu mets également en avant beaucoup, c'est finalement le networking, le réseau, l'importance du réseau, l'impact aussi du réseau, ne serait-ce que le fait d'être encadré, entouré, conseillé et de ne pas se sentir seul. Beaucoup d'entrepreneurs, et 100% d'ailleurs des entrepreneurs même qui nous écoutent, ont conscience de l'importance du réseau. Nous-mêmes, on s'est rencontrés finalement grâce à un réseau. J'organise aussi des networking avec entrepreneurs.com et ça depuis des années. Comment tu t'y prendrais si demain tu arriverais dans une nouvelle ville, un nouveau pays, une nouvelle culture, donc tu déménages vraiment loin ou en tout cas dans quelque chose que tu ne connais pas, tu n'as plus de réseau et tu dois justement réussir à construire ton réseau par rapport à un objectif qui est défini, qui est précis, qui peut être lié à un objectif professionnel ou ne serait-ce que personnel. Dit autrement, finalement, c'est quoi tes clés pour réussir à créer un network, un réseau qui est vraiment aidant et qui n'est pas juste un réseau qui vient te permettre de, voilà, de te divertir et de te convaincre que tu mets en place des choses plutôt que de faire avancer la machine.
Ben, je dirais déjà, viens sur The Musette, tu vas avoir du réseau. Non, mais après, je dirais aussi, l'expatriation, en fait, c'est ceux qui sont expats, c'est un monde petit. Donc, je pense qu'il y a forcément un moment, une connaissance à toi qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui fait que ça va être une première porte d'entrée. Après, il y a pas mal de groupes qui existent en local. que ça soit, tu sais, tous les villes accueil, Amsterdam accueil, Singapour accueil, Dubaï accueil, etc. Donc ça, c'est aussi une porte d'entrée. C'est des qui te permettent déjà de toutes ces villes accueil, en fait, ça permet de rencontrer des gens et en tout cas de voir comment fonctionne le pays. Te dire, bon, bah voilà, il y a un jour, c'est une visite de telle ville, viens voir comment ça se passe. Donc déjà, quand tu connais rien, c'est un premier biais aussi, et qui peut être, voilà, après, ce qui peut te permettre de rencontrer des gens de façon personnelle. Après, quand c'est professionnel, c'est là que ça devient plus compliqué, mais c'est dans ce réseau personnel que tu vas pouvoir développer ton réseau professionnel, je pense. Parce que si tu parles de ton projet à, je sais pas, à une maman qui est dans la même école que ton enfant, tu dis, bah voilà, moi j'ai envie de faire ça. Peut-être qu'elle dit, ah bah attends, tiens, je connais quelqu'un qui pourrait te... Et ça va, au final, ça va après assez vite. Donc, il y a, voilà, y a les canaux, je dirais, au départ, de ville accueil qui sont là pour ça, qui ne sont pas forcément des réseaux de professionnels, hein, mais qui fait que quelqu'un va te donner le nom d'une autre personne, et après, ça va assez vite. Et on n'est pas non plus énormément à chaque fois de Français dans chaque ville, quoi. Donc, ça facilite aussi.
Ok, très clair. Pour les personnes qui peut-être osent pas, se sentent illégitimes, on pourrait dire timides, mais finalement, souvent, c'est pas forcément ça. Je l'ai vu autant chez les hommes que chez les femmes, mais les femmes ont plus tendance à l'exprimer, en tout cas d'expérience, ou en tout cas me l'ont plus exprimé de vive voix, que ce soit dans mon réseau ou chez nos clients ou autres. Quels sont les conseils que tu donnerais justement pour passer outre cette barrière de croyances limitantes ou d'obstacles et oser ?
Bah c'est vrai qu'il y a, quand on est conjoint suiveur, on a un peu ce plafond de verre qui est vrai ou pas, j'en sais rien, mais parce que, tu vois, quand tu as des soirées et qu'on te demande tu fais quoi, et que si tu n'as pas... monter quelque chose, si tu fais pas partie d'une entreprise, tu dis, je fais rien, j'élève mes enfants, et ce qui est déjà un énorme travail, qui aussi n'est pas forcément bien reconnu, c'est compliqué. Donc tu rentres tout de suite dans la case, elle est inintéressante, c'est bon, il n'y a rien à en tirer, donc voilà. Donc c'est compliqué. Mais le conseil que je donne, c'est, de toute façon, on n'a pas le choix. Tu pars en expatriation, c'est pas pour être replié sur toi-même et vivre dans ta maison, quoi. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller découvrir les autres. Si tu rencontres ta communauté française, tant mieux, parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, hein. Les codes, on a les mêmes codes, donc voilà. Mais c'est chouette d'aller voir comment vivent les Hollandais, comment vivent les Émiratis, comment vivent les Américains, comment vivent les Australiens. Donc en fait, il faut se donner un bon coup de pied. Et se dire, j'y vais. Alors, je dis pas que les premières, surtout si on est un peu timide, tu vois, les premières rencontres de café accueil comme ça sont évidentes, parce que des fois, c'est pas du tout notre truc. Hein. Mais c'est comme ça que la machine va s'enclencher. Et c'est... en fait, il n'y a pas le choix, faut y aller, faut se lancer. J'ai rencontré et interrogé une jeune fille qui est expatriée au Canada, qui, elle, n'a pas d'enfant. Au Canada, quand tu n'as pas d'enfant et que tu es en hiver et que tu as 40 cm de neige, 1 mètre de neige à ta porte, pour rencontrer du monde, tu vas voir ton voisin. Voilà, ça se passe comme ça. Donc, en fait, il faut c'est les premiers temps qui sont peut-être un peu les premières rencontres qui sont difficiles, mais après les gens sont tellement, en fait on est tous dans le même bateau, quoi. On n'a plus nos familles à côté, je veux dire, on n'a plus nos amis, on n'a plus nos repères qu'on avait. En effet, tout est nouveau, il n'y a pas le choix, faut y aller. Il n'y a pas le choix, que ce soit au niveau perso ou pro. Si à un moment tu as envie de créer quelque chose, faut y aller, faut aller toquer aux portes. Il faut aller rencontrer du monde et au final c'est tout le temps bénéfique, quoi. C'est une façon, c'est hyper enrichissant. Tu peux tomber sur une ou deux personnes avec qui t'accroches pas, mais c'est ok, c'est pas grave. Ok, t'as rencontré cette personne, ça matche pas, ça matche pas, mais bon, t'en rencontreras d'autres. Et c'est hyper puissant, hyper riche. Donc, ouais, faut passer au-delà de son, de ses a priori, de son, ouais, de ses croyances, en disant, ouais, enfin, je vais rencontrer personne. Non, 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 pas du tout. Parce qu'on est tous dans le même mindset.
Complètement. Tu disais tout à l'heure quelque chose qui est vrai et sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est que finalement, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur et c'est OK, si je reprends vraiment tes
Ouais,
mots. L'entrepreneuriat, finalement, c'est beaucoup envisagé comme une solution pour les femmes expatriées cherchant à gagner en flexibilité, à équilibrer leur vie tout en étant active. Mais il faut quand même dire que la vérité, comme tu l'évoques, l'entrepreneuriat n'est pas adapté à tout le monde. Comment est-ce que toi, tu arrives à identifier si c'est la bonne voie pour elle, donc elle au pluriel, mais aussi elle au singulier, lorsque tu as une femme qui va t'exprimer sa volonté d'entreprendre et de porter un projet? Première question et deuxième question, c'est finalement, est-ce que d'expérience, tu as tendance à proposer des alternatives pour des personnes qui peut-être ne seraient pas forcément prêtes ou faites pour entreprendre et gérer tous les enjeux liés à ça? De façon à ce que celles et ceux qui nous écoutent puissent éventuellement avoir des pistes ou des idées si elles se reconnaissent dans un, je suis pas forcément fait pour ça, et deux, il y a peut-être une alternative.
Ouais, je rencontre pas mal de femmes qui sont à différents stades de projet et c'est sûr qu'il y en a qui veulent pas forcément grossir beaucoup. Donc elles sont à un, entre guillemets, petit niveau, mais enfin c'est pas du tout péjoratif, mais c'est voilà, j'ai ce que j'ai, ça me suffit et je veux pas aller plus loin. Ça c'est bien parce qu'elles s'en rendent compte. Celles qui me posent des questions en me disant j'ai envie de faire ça, etc. Mais je suis pas sûre, mais j'en reviens à ce que je disais au départ. Mais je te mets en contact avec une coach qui va vraiment te voir si tu vas être aligné avec ce que tu vas faire. Parce que ouais, l'entrepreneuriat, faut être résilient, faut s'accrocher, faut passer par ces fameuses montagnes russes. Tu vas être seul dans toutes les prises de décision. Donc, ouais, il faut être sûr. Donc, je préfère leur dire, moi, c'est pas mon. J'ai une sensibilité, donc je peux voir si la personne va se dire, ouais, l'entrepreneuriat, c'est fait pour moi. Maintenant, je ne suis pas professionnelle de ça. Donc, je préfère les orienter vers mes experts en disant, voilà, c'est sûr que tu seras bien guidé. Et au moins, tu ne perdras pas de temps. Pour celles qui, au final, l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça, elles ont en fait déjà leur expertise d'avant. Elles ont bossé avant. Donc, j'essaye de, en fait, par mes connexions, de faire passer, par exemple, des CV. Moi, je sais que j'ai déjà deux, trois personnes qui m'ont dit, oh, bah, tiens, vous avez des connexions, est-ce que vous ne connaîtriez pas quelqu'un qui cherche. Je sais pas, tel profil. Bah voilà, comme il y a des femmes qui ont entrepris et qui ont des grosses entreprises, bah voilà, je passe par leur canot. Ou alors, parce que comme je te disais, on côtoie aussi des personnes qui sont C-level, plus, etc. Bah voilà, on peut passer par eux. Donc, mon but, c'est de dire, voilà, si tu le sens pas, l'entrepreneuriat, ou si avec cette coach, bah, tu te rends compte que ça va être trop dur parce que ça demande du temps, parce qu'au final, t'es pas convaincu de ce que tu vas faire. Et ben ouais, t'as peur ton autre option, c'est voilà, t'as ton expertise d'avant, et ben on va faire passer le CV, quoi. Donc j'essaie quelque part de, entre guillemets, chasseuse de tête, enfin de replacer, enfin voilà, si je peux et qu'on me le demande, j'essaie de placer des CV à droite à gauche.
Hyper intéressant finalement, ouais. Le but et l'intention même de ton réseau et de l'initiative et de Musette, que ce soit au travers du podcast, du média, de la plateforme, c'est vraiment d'aider au sens large du terme les femmes expatriées. On parlait avant d'entrepreneur en début d'épisode, mais finalement, entrepreneur, c'est un mot qui veut tout et rien dire, parce que dès lors que tu veux mettre en place des choses et de la différence dans ta vie, tu entreprends un projet, tu entreprends quelque chose. Donc, ouais, hyper intéressant et merci pour ça. Justement, en parlant de The Musette, vous intervenez déjà dans nombreux pays en tenant compte de cette portée internationale. Comment est-ce que tu envisages l'évolution de la suite dans les prochaines années par rapport à cette stratégie d'expansion? Sur quelle plateforme est-ce que vous êtes plus ou moins présente? Ça peut être intéressant parce que développer une communauté, un réseau, ça paraît simple sur papier à beaucoup de gens qui en lancent, mais la réalité, c'est que c'est quand même de vrais enjeux. Ça peut être intéressant d'en savoir plus sur ta stratégie et ta vision de la chose.
Ouais, en effet, créer un réseau, c'est pas évident parce que faut créer un projet qui parle à pas mal de personnes et surtout faut les fédérer, faut les faire adhérer. Donc c'est là que je trouve que moi c'est une partie compliquée de ce que je fais, même si j'adore hein, et que je suis ravie de voir que plein de femmes s'inscrivent à ce réseau, mais ça c'est le côté un peu compliqué. La stratégie d'expansion, c'est continuer à faire ces events. J'aime bien parce que tu dis vous voulez faire grossir, mais en fait le vous c'est que moi. Je suis toute seule à manager ce réseau, donc c'est bien. Quelque part, je me dis, on a l'impression qu'on est beaucoup derrière. Si je peux le faire, encore une fois, c'est grâce aux ambassadrices qui croient au projet. Donc, la stratégie d'expansion, c'est de pouvoir continuer à faire ces events dans d'autres pays ou revenir dans des villes où je suis déjà venue. Grâce à elle, en développant ce réseau d'ambassadrices. Et puis aussi, c'est pouvoir le faire vivre plus longtemps grâce à du sponsoring. Parce que c'est, je trouve ça du sponsoring d'entreprise. Voilà, de se dire, bah voilà, les entreprises, parlent beaucoup de empowerment féminin, disent ouais, c'est bien, on va soutenir ça. Des fois, c'est pas mal de blabla derrière. Moi, j'aimerais que, voilà, prennent vraiment acte de ça et qu'ils fassent vraiment quelque chose. Donc, si c'est par du sponsoring, c'est très bien. Si c'est par le fait de dire, bon, voilà, on va prendre vos packs d'accompagnement parce que pour les suiveurs, on va vraiment les prendre en compte. Voilà, c'est vraiment passer à l'action. Donc, voilà, la stratégie, c'est ça. C'est agrandir le réseau d'ambassadrices pour pouvoir... proposer plus régulièrement ces events dans les villes et pas le faire en one shot. Se faire sponsoriser par ces entreprises moyennes grosses.
Donc finalement, déployer une stratégie plus orientée B2B que B2C, ouais. Pour pouvoir directement être à la source même des enjeux ou en tout cas des éléments qui créent ces opportunités.
Ouais, exactement. Parce que au final, toutes mes entrepreneurs, mais elles choisissent où investir. Elles peuvent pas investir sur tout. C'est pour ça que je leur propose des packs d'accompagnement un peu flexibles, adaptés au niveau financier. Parce que si tu prends un expert dans la stratégie digitale, et puis après dans le branding, et puis après dans je sais pas tout ce qui est relations presse par exemple, si tu les mets bout à bout, c'est un budget énorme. Et elles peuvent pas se permettre. Ça, c'est encore un des clichés que j'essaye de briser. C'est pas parce qu'on est expat et femme d'eux que voilà, on a une enveloppe hyper importante pour développer son projet. Non, c'est compliqué. On fait avec ce qu'on a, on fait avec le réseau qu'on a, on fait avec le. Il n'y a pas d'aide extérieure, il n'y a pas d'aide du gouvernement français pour toutes ces femmes qui entreprennent et qui font rayonner l'entrepreneuriat français à l'étranger. Il n'y a pas ça. Donc, il faut aller taper ailleurs. Et ailleurs, c'est les entreprises. Et il faut les convaincre de dire, voilà, c'est bien d'avoir envoyé votre talent en expatriation parce que voilà, il a son expertise. Mais vous n'avez pas envoyé que lui. Vous avez envoyé aussi sa femme et sa famille. Donc, prenez-les en compte. Donc, voilà, c'est toute une réflexion. Enfin, que ce soit un cercle vertueux, en fait. pas, s'il n'y a pas de... Le but, c'est pas de juger. Le but, c'est de dire, bon, voilà, c'est bien de l'avoir fait. Vous allez faire rayonner votre entreprise à l'étranger. Mais prenez en considération le reste, comme je te disais au début, quoi. Et donc, si vous pouvez voilà, soutenir le réseau The Musette d'une façon ou d'une autre, et bah, super, faites-le. Au moins, ça apportera encore plus de crédibilité que ce que j'ai déjà, quoi.
En proportion, que je me rende compte, je me pose vraiment la question, une entreprise qui typiquement va demander à un de ses collaborateurs, imaginons pour que ce soit concret, sans forcément, je cite cette entreprise parce qu'elle me vient à l'esprit, imaginons Total. Va prendre un de ses cadres qui habite en France et va tout simplement lui offrir une opportunité ici aux Émirats. À quel point la proportion de ces entreprises qui vont déloger entre guillemets des talents d'un endroit à un autre et donc les faire s'expatrier complètement prennent en considération l'ensemble, c'est-à-dire la famille, les enfants s'il y en a, etc. Et à quel point aussi peut-être ça peut être un frein pour la personne en question au niveau de ses opportunités. Est-ce que typiquement, si par exemple, ils ont le choix entre deux personnes, un qui est un homme célibataire sans enfant et un autre qui est un homme marié, deux enfants, ils vont prioriser davantage celui qui est célibataire parce que moins de responsabilités, moins d'enjeux, moins de contraintes liées à son expatriation ou pas? Ça peut paraître une question un peu subjective. Mais j'imagine que de par la data que tu as avec toutes ces années où tu as échangé, discuté avec toutes ces femmes et toutes ces personnes expatriées, tu dois en savoir bien plus que je n'en sais à ce sujet.
Moi, pour donner un chiffre, il y a seulement 2% des entreprises qui supportent les conjoints suiveurs, ce qui est très peu. Après, à te dire, est-ce qu'on va prendre le célibataire ou celui en famille, ça, je pense que ça dépend plutôt de l'expertise qu'a le salarié. Ça, c'est hyper subjectif par rapport à l'entreprise et à ce qu'elle cherche. Mais voilà. C'est très peu d'entreprises qui offrent quelque chose aux conjoints suiveurs. Et souvent, ça offre bah, quoi, ou une formation, ou un bilan de compétences, ou des cours de langue. Et à un moment, si tu veux, c'est pas suffisant, quoi. C'était bien peut-être dans les années 80, mais maintenant, à l'heure actuelle, où en effet, l'entrepreneuriat est quand même en train d'exploser, bah, voilà, voilà, il faut offrir autre chose. Il faut les aider à se réaliser aussi. Et c'est pour ça que c'est important. Et 2%, c'est rien, quoi. C'est rien.
C'est
Donc,
vraiment
enfin, voilà.
peu, ouais.
Après, encore une fois, c'est pas pour juger les entreprises. Et c'est sûrement difficile. Et parce qu'il y a des budgets enfin, voilà, des coûts enfin, qui sont liés à cette expatriation. Parce que, bon, bah, voilà, C'est sûr que vivre aux Émirats, eh ben, ça coûte plus cher qu'aller vivre au Cambodge, par exemple. Mais ce n'est pas pour ça que les entreprises tiennent en compte ces suiveurs. Donc je trouve ça hyper dommage, quoi.
Complètement. Merci pour tous ces éléments et ton partage d'expérience, Adeline. J'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés ont eu au moins autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'animer, comme à chaque fois. D'ailleurs, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de streaming préférée. On mettra d'ailleurs les liens de The Musette en description de cet épisode, comme on le fait à chaque fois. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un déclic ou une situation en particulier qui a littéralement finalement créé une sorte de transformation, je dirais, identitaire chez toi? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une situation, une citation, quelque chose de positif, moins positif, peu importe, une expatriation, pourquoi pas, mais que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet épisode, peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview. Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
En fait, c'est le déclic que j'ai eu dans l'idée de poursuivre de façon plus importante et de donner une dimension plus importante à mon projet. C'était une copine à moi que j'avais à Amsterdam quand j'avais l'idée de lancer ce. Enfin voilà, j'étais aux prémices du projet de The Musette et elle m'a dit, mais de toute façon, t'inquiète pas, ça va évoluer, ton idée. Au départ, j'étais bah, ok, peut-être. Mais en fait, ça a résonné en moi. Et bah, elle avait raison. Et je suis assez contente, en fait, je suis assez fière de voir de tout le parcours parcouru, fait, toute cette évolution, et de voir que, bah voilà, je suis, comment dire, je suis un peu sur la map. je suis encore petite, ça va évidemment grandir. Mais voilà, sa phrase à elle, en fait, a été une résonance, et ce qui fait que j'ai pas lâché. Et je t'en dirais peut-être un autre aussi, un autre déclic, c'est qu'une fois j'avais discuté avec une jeune femme que je ne connaissais pas du tout, qui était une copine d'une de mes copines, et je lui parlais de mon projet, et cette femme qui ne connaissait pas, qui n'avait aucun affect, m'a dit « Ah mais ton truc, c'est vachement bien, tu vas pouvoir faire plein de choses ». Et ça, c'est un autre déclic, c'est une autre phrase qui m'a dit « Bah ok, il faut que je continue, c'est dur ». Mais voilà, je suis sûre que je peux faire des choses très importantes, avoir une vision long terme, voire grand. Ça c'est un truc américain aussi, voire grand. Et ça, voilà, c'est ces deux phrases, en fait, qui ont été un peu des déclics pour moi et qui m'ont permis de continuer et de ne pas baisser les bras, même s'il y a des fois, tu te dis « c'est compliqué, je vais arrêter ». Mais voilà, je me rappelle de ça et je suis contente d'avoir tenu jusque-là parce que, encore une fois, dans l'entrepreneuriat, une des choses les plus dures, c'est de durer. C'est de s'inscrire dans le temps et c'est pas de lancer un projet comme ça parce que t'es femme expat et t'es femme d'eux, bon, bah voilà, t'as créé ton petit truc. Non, non. Bon, voilà, et comme tout, hein, c'est de créer quelque chose dans la durée et dans le temps et si possible, de façon pour celle qui crée quelque chose un peu sustainable, voilà, de façon environnementale de plus importante, avoir un impact important.
Merci Adeline.
Merci Alec.